Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Paraquad? Paraquad. Au programme, comme si notre handicap n'était pas suffisant comme obstacle. Et la politique est-elle accessible? Bonne écoute.
Comme si notre handicap n'était pas suffisant comme obstacle, un texte de Marie-Chantal Salva, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Lorsque Mémo QC m'a demandé de participer à un vox pop en écrivant 250 à 500 mots sur les choses qui sont inacceptables en 2023 pour les personnes en situation de handicap et ce que l'État peut faire pour que ça change, j'ai répondu que c'était impossible. Il y en a bien trop. C'est difficile de savoir par où commencer. J'ai donc tenté de les décortiquer par secteur ou sujet. Obstacles architecturaux. D'abord, la première chose qui me vient en tête, c'est pourquoi, en 2023, les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas entrer et circuler librement dans tous les bâtiments et édifices au Canada? Pourquoi, à tout le moins, tous les bâtiments n'ont-ils pas une rampe d'accès, une toilette adaptée accessible, un ascenseur ou un monte-charge lorsqu'il y a des escaliers, des aires suffisamment grandes pour circuler? Tant de fois n'ai-je pas pu entrer dans un restaurant, un hôtel, un bureau de médecin ou un magasin à cause du seuil de porte et des marches. Je ne comprends pas pourquoi le Canada n'a pas encore adopté une loi similaire à celle des États-Unis, intitulée « The Americans with Disabilities Act », ADA Act, adopté en 1990, et à son règlement ADA Standards for Accessible Design, mis à jour en 2010. Cette législation américaine protège les personnes en situation de handicap contre une multitude d'inégalités et de difficultés d'accessibilité dans plusieurs secteurs, tels que l'emploi, l'éducation, le transport, les télécommunications, les transports en commun ainsi que toutes les places d'affaires gouvernementales et privées qui sont ouvertes au public. Elle émet des normes et requis minimaux et obligatoires d'accessibilité architecturale des bâtiments existants à rénover et à construire. La loi est très vaste et couvre notamment les restaurants, hôtels, hôpitaux, bureaux de médecins et autres professionnels, magasins, théâtres, cinéma, écoles, gyms, taxis, autobus, bureaux, etc. Ainsi, les gens ne se butent pas à l'entrée des commerces, hôtels et édifices parce que ceux-ci ne sont pas accessibles. Il y a même des exigences de stationnement pour les mini-fourgonnettes adaptées avec des dimensions plus grandes pour qu'un fauteuil roulant puisse sortir sur le côté. Dans la réalité, l'ADA Act et l'ADA Standards for Accessible Design ne sont pas parfaits. Et ce ne sont pas tous les édifices qui s'y conforment, surtout lorsqu'il y a des coûts déraisonnables impliqués pour les adaptations, mais au moins il existe une législation. À ma connaissance, il n'y a rien de tel au Canada. Outre les énoncés généraux des diverses chartes des droits et libertés et la nouvelle loi fédérale, loi canadienne sur l'accessibilité, qui constitue un début, bien qu'elle vise uniquement le gouvernement fédéral et les entreprises ayant un champ de compétences fédérales, en laissant jusqu'en 2040 pour restreindre les obstacles à l'accessibilité. Aucune entreprise de champ de compétences provinciale ni organisme gouvernemental provincial, commerce ou édifice privé n'est visée par cette loi. C'est loin d'être suffisant. Je n'ai pas fait une analyse exhaustive des lois canadiennes et américaines en matière de protection des personnes en situation de handicap, mais une chose est sûre, les États-Unis sont bien mieux outillés que le Canada en termes de législation pour protéger les personnes en situation de handicap. Au Canada, ça nous prend des lois et règlements précis et des normes architecturales claires et obligatoires pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à tous les bâtiments existants à rénover et à construire et services destinés au public. Soins de santé. En 2023, tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé, hôpitaux, cliniques médicales et spécialistes en soins de santé. Exemple, dentiste, optométriste, physiothérapeute, médecin de famille, gynécologue, oncologue, radiologue, etc. Et aux équipements de diagnostic et de traitement. Or, dans les faits, les personnes à mobilité réduite, plus particulièrement celles en fauteuil roulant, ont beaucoup de difficultés à y avoir accès. Souvent, plusieurs abandonnent par manque d'énergie pour réussir à trouver un endroit accessible pour faire les examens et traitements. Par exemple, ça m'a pris 6 ans pour pouvoir avoir un examen gynécologique et un test PAP. Mon médecin de famille et la clinique médicale ne pouvaient faire ce type d'examen avec une personne en fauteuil roulant. La table d'examen était beaucoup trop étroite et n'était pas accessible. Après plusieurs années d'attente, j'ai eu accès à un médecin de famille du CLSC qui se déplace à domicile. Or, elle m'a dit qu'elle n'était pas équipée pour faire ça à mon domicile malgré mon lit électrique pour ajuster la hauteur. J'ai même proposé que 2 préposés l'assistent, mais on m'a répondu que ce n'est pas possible. J'ai également contacté l'IRGLM pour demander si on pouvait faire l'examen sur place avec un médecin généraliste de l'endroit. Après des mois d'attente pour obtenir une réponse, on m'a finalement répondu que ce n'était pas possible. Après de multiples appels et visites dans les cliniques et hôpitaux, et avec l'aide de mon médecin à domicile et mon urologue, j'ai pu avoir un rendez-vous avec une gynécologue à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Ils avaient un lève-personne, bien qu'on m'ait dit que celui-ci ne servait qu'une ou 2 fois par année et que les préposés ne savaient pas trop comment s'en servir. Somme toute, j'ai reçu un bon service. Mais pour me rendre là, j'ai l'impression d'avoir été dans la maison des fous, dans les 12 travaux d'Astérix. Tout le monde m'a référé à une autre personne et se lançait la balle. Vous écoutez, comme si notre handicap n'était pas suffisant comme obstacle, un texte de Marie-Chantal Salva, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. De plus, pour un examen de la vue, j'ai dû faire 12 appels dans des bureaux d'optométristes et j'ai dû communiquer avec l'Ordre des optométristes du Québec pour pouvoir avoir accès à des bureaux et équipements d'examen accessibles aux fauteuils roulants. Il semble que plusieurs femmes aient également de la difficulté à avoir un rendez-vous pour une mammographie par manque d'accessibilité à des équipements spécialisés pour les fauteuils roulants. C'est la même chose pour réussir à faire des radiographies lorsqu'on est en fauteuil roulant et qu'on ne peut pas se transférer seul. Ce qui est triste, c'est que plusieurs décident de ne jamais faire les examens et les traitements puisqu'ils ne réussissent pas à trouver des endroits aptes à les recevoir pour les examiner et les traiter. Pour les personnes en fauteuil roulant, ça peut prendre des mois et des années avant d'avoir des rendez-vous dans les hôpitaux pour des choses qui se font très rapidement en clinique ou bureau de professionnels externes pour les gens qui ne sont pas en fauteuil roulant. Il devrait y avoir des obligations légales pour assurer que nous ayons accès à tous ces bâtiments, salles d'examen et équipements spécialisés, au minimum, avant l'adoption des mesures législatives nécessaires. Les ordres professionnels devraient à tout le moins fournir des listes des bureaux et équipements accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Soins à domicile. Il y a un grave problème de pénurie de personnel dans les soins à domicile, notamment de préposés, et ce sont les personnes en situation de handicap et leurs aidants naturels qui en souffrent en subissant le haut taux de roulement de personnel, une baisse de la qualité et de la quantité des soins, et même des bris de service. Le gouvernement parle souvent de pénurie de préposés dans le secteur public, mais il oublie que c'est encore plus le cas pour les employés des agences privées, des résidences et de ceux bénéficiant du chèque emploi-service, CES, pour les soins à domicile. Pendant la pandémie, le gouvernement a augmenté considérablement les salaires des préposés qui travaillent dans le secteur public, hôpitaux, CHSLD, CLSC, accentuant ainsi l'écart déjà existant de ceux-ci par rapport à ceux des préposés qui travaillent en agence privée, résidence ou pour le CES, qui gagnent beaucoup moins. Sans compter le fait que ces derniers n'ont pratiquement pas d'avantages sociaux par rapport aux préposés du secteur public, qui bénéficient entre autres de régimes de retraite, d'assurance, de congés de maladie payés et de kilométrage remboursé. De plus en plus, le gouvernement délègue au secteur privé et au CES les soins prodigués par des préposés à domicile. Mais de moins en moins de préposés veulent travailler au privé ou pour le CES à cause des conditions moins avantageuses, malgré un travail assez similaire à celui des préposés du secteur public. La solution simple serait que les salaires et avantages sociaux de tous les préposés soient les mêmes pour tous. Mais dans la réalité, c'est difficilement faisable. Dans un premier temps, il faudrait que le gouvernement augmente le taux horaire des employés du CES et octroie des avantages sociaux afin que leurs conditions soient similaires à celles des préposés du secteur public. En ce qui concerne les agences de placement, c'est encore moins évident. Dans le système actuel, pour gagner les appels d'offres, les agences doivent être au prix le plus bas. Or, cela a des conséquences puisque ce sont les salaires et conditions de travail des préposés qui écopent. Il faudrait que les appels d'offres des CLSC exigent des salaires et avantages sociaux minimums pour les employés d'agence. Je ne sais pas si c'est viable. Normalement, le public n'impose pas les conditions du privé, encore moins les salaires et avantages sociaux. Ultimement, l'argent émane du gouvernement puisque c'est lui qui paie les agences privées et les employés du CES. Tant que les appels d'offres obligeront à afficher le prix le plus bas, ça sera difficile de corriger le problème pour les employés d'agences privées. La disparité de traitement en fonction de l'agent payeur. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a une disparité de traitement déterminée par l'origine de notre blessure médulaire, accident de travail, de la route, ancien combattant, acte criminel, autre, et l'agent payeur, CNESST, SAAC, Forces armées, IVAC, RAMQ, et ce, autant pour les soins, les adaptations domiciliaires, les équipements payés, etc. Pourquoi quelqu'un qui a eu un accident de la route ou du travail peut faire entièrement adapter sa résidence aux frais de la SAAC ou de la CNESST par opposition à un accidenté qui n'a pas d'agent payeur autre que la RAMQ, qui est limité au programme d'adaptation de domicile, PAD, et à un maximum de 16 000 $, sauf exception. Pourquoi le premier peut choisir un fauteuil roulant parfaitement adapté à sa condition, alors que le second est limité aux quelques fauteuils du décret du gouvernement de moindre qualité et non adapté aux situations et conditions de tous? Pourquoi le premier peut se faire payer un équipement sportif, notamment un vélo adapté, alors que le second ne peut pas? Pourquoi le premier doit chercher et engager des prestataires de services de soins alors que le second dépend entièrement de ceux du CLSC? Il n'y a aucune logique dans tout ça. Il devrait y avoir une uniformité de traitement, peu importe la source de l'accident et l'agent payeur. Vous écoutez, comme si notre handicap n'était pas suffisant comme obstacle, un texte de Marie-Chantal Salva, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Le manque de suivi médical après la réadaptation. Une autre chose que je trouve aberrante, c'est le fait que lorsqu'on a un accident et une blessure médulaire, le système de la santé nous prend en main avec des soins médicaux, physiothérapie, ergothérapie, mise en forme, nutrition, psychologie, pendant quelques mois, et jusqu'à 2 ans dans certains cas de quadriplégie, et que, par la suite, nous sommes laissés à nous-mêmes. C'est difficile et même impossible de trouver des physiothérapeutes, ergothérapeutes et autres spécialistes et professionnels qui connaissent bien la condition des blessés médulaires et qui peuvent nous aider par la suite, sans compter le coût de tels services et leur accessibilité. Notre condition physique se dégrade par manque d'entraînement, de physiothérapie, de suivi médical, d'équipement pour nous permettre de nous verticaliser, etc. Je suis convaincue que les complications dues à notre inactivité coûtent beaucoup plus cher au système de la santé que le contraire. Dans le cas de blessés médulaires qui n'ont pas d'agent payeur, tous les soins et les professionnels post-réadaptation sont dirigés vers les CLSC. Or, tous les CLSC sont plus habitués à desservir une clientèle aînée plutôt qu'handicapée. Nous passons des mois à pratiquer nos transferts en réadaptation et lorsque nous arrivons à la maison, le CLSC trouve ça trop compliqué et nous impose le lève-personne. Les intervenants du CLSC ne connaissent pas notre clientèle et ont bien de la difficulté à nous recommander des adaptations pour nous aider dans notre quotidien. La procédure n'est pas claire lorsque l'une de nos adaptations faites en réadaptation se brise. Si, au moins, il y avait des équipes d'intervenants dédiées à notre clientèle. Bureau de vote. Je me suis trouvé dans une situation très désagréable lors des dernières élections municipales de ma ville. Lorsque je suis allée à mon bureau de vote, qui se trouvait dans une école primaire, j'ai réalisé que celui-ci n'était pas accessible au fauteuil roulant. Mon conjoint est entré à l'intérieur et a demandé à ce que quelqu'un puisse venir à l'extérieur pour que je puisse voter. On a refusé, et cela a eu pour conséquence que je n'ai jamais pu voter. Par la suite, j'ai fait une plainte à la ville et au maire à cet effet, et j'ai reçu des excuses. On m'a promis que la prochaine fois, cela n'arrivera plus. Un journaliste a même écrit sur le sujet et sur ma situation particulière lors du vote, mentionnant que cela était inacceptable. Il y a beau y avoir des lois pour nous protéger en la matière pour qu'une telle situation n'arrive pas, elles ne sont pas systématiquement appliquées. Rente d'invalidité. Il existe une procédure discriminatoire pour les personnes en situation de handicap qui reçoivent une rente d'invalidité du gouvernement lorsqu'elles ont 60 ans. Une pénalité sur les montants de la rente de retraite à recevoir est appliquée, puisqu'au sens de la loi, elles sont réputées avoir pris leur retraite à 60 ans au lieu de 65 ans. Leur rente de retraite entre en vigueur automatiquement. La loi vient d'être modifiée et a réduit légèrement la pénalité, mais elle demeure encore discriminatoire. La Commission des droits de la personne a jugé la loi discriminatoire, mais le gouvernement n'a pas aboli la pénalité entièrement. Qu'est-ce que ça prendra pour qu'on se fasse écouter? Espérons que les actions en justice en cours seront jugées en faveur des demandeurs et des personnes en situation de handicap et mèneront ultimement à une modification de la loi en notre faveur. Il ne s'agit là que de quelques constats d'injustice qui me viennent en tête et dont j'ai fait l'expérience depuis mon accident. C'est certain que mon article ne refera pas le monde, mais j'espère qu'il pourra servir de base pour faire des revendications auprès de nos élus et des instances gouvernementales. Il est temps que les discriminations envers les personnes en situation de handicap disparaissent et que des lois et règlements soient instaurés pour abolir tous les obstacles auxquels nous faisons face et assurer que nous ayons accès à tous les bâtiments et services publics. C'était, comme si notre handicap n'était pas suffisant comme obstacle, un texte de Marie-Chantal Salva paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad.
La politique est-elle accessible? Un texte de Walter Zelaya, paru dans le numéro 158, automne 2022 du magazine Paraquad. Walter Zelaya travaille dans le milieu communautaire depuis 1990. Après quelques années en intervention, il assume des postes de coordination et de direction. Au début, dans un regroupement en éducation populaire, ensuite dans un centre d'action bénévole. Il est le directeur général de Memo-QC depuis 2003, détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en services sociaux de l'Université Laval. Il a un intérêt marqué pour les questions sociétales et d'actualité. Un numéro sur la politique seulement quelques semaines après les élections vous semblera peut-être un étrange choix éditorial. Pourtant, alors qu'on parle beaucoup des campagnes électorales, on s'attarde moins à la place qui joue les personnes en situation de handicap. Dans ce numéro, nous désirons faire le point sur la campagne provinciale qui s'est terminée le 3 octobre dernier, mais aussi sur l'accessibilité du processus électoral et politique tant pour l'électorat que pour les personnes élues. Pour se pencher sur le sujet, Virginie Archambault a rencontré Normand Boucher, politologue et chercheur pour le CIRIS, qui nous a fait part de ses positions sur les politiques sociales chez les personnes en situation de handicap. Quant à elle, Annabelle Grenon-Fortier et Ariane Gauthier-Tremblay nous parlent de la place, ou plutôt de l'absence de place, accordée aux enjeux des personnes handicapées dans la dernière campagne électorale. Dans un autre article, Ariane Gauthier-Tremblay s'intéresse à la politique municipale et nous présente la réalité de quelques acteurs du milieu qui vivent avec un handicap. On continue de parler politique dans notre section « Promotion des droits et sensibilisation » où l'on vous présente quelques dossiers plus précis se penchant sur des politiques québécoises. On y aborde le tabou entourant la rente de retraite du régime de retraite du Québec, l'état des services de maintien à domicile en Abitibi-Témiscamingue et la qualité des services internes à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. De toute évidence, les difficultés d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ne se limitent pas aux questions architecturales, à l'accès aux soins ou à l'emploi. Faire partie prenante de la vie démocratique et, par le fait même, de la politique, devrait être un droit et non un privilège. Tout citoyen mérite d'avoir voix au chapitre sans égard pour son handicap. Dans un autre ordre d'idées, nous vous présentons une rétrospective en images de notre souper-spectacle 75 raisons de fêter qui marquait la fin des festivités de notre 75e anniversaire. En effet, c'est plus de 400 personnes qui se sont rassemblées au Palais des Congrès de Montréal pour rendre hommage à Mémo-QC lors de cet événement haut en couleur. Cette soirée fera assurément partie de l'histoire de l'organisme comme un moment festif marquant de Mémo-QC. Finalement, nous vous invitons à en apprendre plus à propos du Fonds 33, une initiative de la Fondation Moelle Épinière et Motricité Québec, dont la 6e édition a été lancée le 18 octobre dernier. Bonne lecture. C'était « La politique est-elle accessible ?» un texte de Walter Zelaya, paru dans le numéro 158 automne 2022 du magazine Paraquad.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.